On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Je suis ravie de vous retrouver comme chaque soir sur France Bleu pour votre émission de Confidence. On se dit tout, c'est jusqu'à 22h et ce soir nous allons parler du divorce ou plus exactement de l'après-divorce. Pas pour parler de la procédure, du jugement, mais bel et bien de parentalité. Comment rester des parents alors que le couple vient de se séparer? Comment prendre des décisions à deux quand on est divorcé? Comment faire en sorte que ça se passe bien pour les enfants? Comment discuter ensemble alors qu'on ne s'aime plus? On vous attend au 0810 055 056. Comment vous avez réussi ou pas à rester des parents attentifs, à l'écoute, en dialogue malgré votre divorce? Notre grand témoin est psychiatre et thérapeute familial. Il a coécrit avec Colette Barou le livre L'art d'être parent séparé aux éditions Albin Michel. C'est Noureddine Benzoura. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre livre est sorti début janvier. Déjà, il fait un carton. C'est donc une vraie problématique d'être parents quand on est séparé, ça intéresse beaucoup de monde.
Tout à fait, bien sûr que ça intéresse beaucoup de monde, dans la mesure où quand on se sépare, on va continuer à s'occuper de ses enfants et on va faire tout seul ce qu'on faisait à deux.
Et on doit penser à beaucoup de choses quand on est divorcé, mais on doit avant tout penser à ses enfants, ils doivent être au cœur de tout.
Oui, la problématique est qu'il faut se décentrer de la problématique du couple pour s'occuper des enfants. À partir du moment où on se dégage un peu de du conflit, on n'est plus à même de gérer, d'être des parents disponibles pour ses enfants.
Et quand on est encore énervé, encore en colère, quand il y a de la rancœur, ça devient plus compliqué de discuter, de prendre les bonnes décisions à deux pour les enfants?
Bien sûr. Et je crois que l'intérêt, c'est justement d'arriver à créer un dialogue. Et je pense que dans toute séparation, alors autant il y a quelques séparations qui se passent dans le calme, mais en grande majorité, il y a quand même une partie, en tous les cas au début, de conflits qu'il faut arriver à surmonter dans un intérêt particulier, c'est celui des enfants.
L'art d'être parent séparé, le mot art dit tout.
Oui, art, dans la mesure où chacun a trouvé ou a créé la meilleure des réponses aux attentes des enfants. Parce que les enfants sont aussi dans une attente. Ils ont des parents qui se séparent, mais ils sont dans cette attente-là. Et il faut qu'ils soient disponibles.
Eh bien, on va en parler ce soir et on vous attend. Si vous avez réussi, vous, votre divorce et notamment votre parentalité malgré votre séparation, si c'est toujours très compliqué en ce moment, si vous rencontrez des difficultés justement pour dialoguer, discuter, prendre les décisions ensemble malgré votre séparation. Et puis, on va parler aussi des nouvelles familles, les familles homoparentales, les familles adoptives également. Ça pose d'autres questions. On est là pour en parler et on a du temps pour le faire, surtout puisqu'on est ensemble pendant 2 heures. Sur France Bleu.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Comment dire aux enfants qu'on va se séparer? À quel moment leur dire? Est-ce que c'est plus compliqué à un certain âge? Et je pense notamment à l'adolescence. Ce soir, on parle de parentalité sur France Bleu, sur comment être un bon parent malgré la séparation. Alors, on ne rentre pas dans les dédales de la procédure judiciaire de votre divorce, mais vraiment sur le dialogue, la communication entre les deux parents au sujet des enfants. Comment on fait pour prendre les décisions à deux malgré la séparation? Comment on fait quand l'un des deux veut tout diriger pour l'éducation des enfants? Comment trouver sa place? Comment laisser aussi pour les enfants? On en parle et on se dit tout au 0810 055 056 avec le docteur Noureddine Benzoura, co-auteur du livre L'art d'être des parents séparés aux éditions Albin Michel. Et nous démarrons cette émission avec Gérard en région parisienne. Bonsoir Gérard.
Bonsoir Vanessa et puis bonsoir docteur. Bah écoutez, moi j'ai eu l'occasion justement de vivre la séparation qui a été un déchirement, je dois dire, parce que bon au départ mon ex a décidé de partir peu de temps après son accouchement, elle a fait un baby blues et puis bon il y avait plein de choses qui n'allaient pas, qui ont fait que ça a augmenté la séparation. Alors on a dû intelligemment dire à la petite, alors qu'elle était vraiment toute petite, qu'elle comprenne, c'est-à-dire d'avoir un dialogue, de lui dire voilà, papa, maman, on va rester ensemble. Et je dois dire qu'après, ça a été vraiment un combat au quotidien, quoi. C'est-à-dire que je l'avais les week-ends et je me suis battu pour ça. J'ai été aidé, hein. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui m'ont conseillé, qui m'ont dit bats-toi et tu verras, ça sera une récompense plus tard. Et au jour d'aujourd'hui, je le regrette pas parce que avec ma gamine, j'ai établi une complicité qui est vraiment réelle. Je l'ai à chaque fois, elle m'envoie des textos, elle m'a branché Facebook. Voilà,
Elle a quel âge, votre fille, maintenant?
Ah ben maintenant, elle a 19 ans.
Ah oui, grande fille.
Ouais, elle est grande, mais bon, elle se souvient toujours, c'est-à-dire que bon, quand elle était petite, et moi je la vois encore comme une petite fille, hein, c'est-à-dire que, comment, on se regardait des dessins animés ensemble, je lui inventais des histoires, on se faisait des sorties culturelles, on se faisait des sorties amusantes, on a fait le maximum, quoi, et je crois pas que je me serais battu autant si j'avais pas été aidé autour de moi, s'il y avait pas eu des gens qui m'ont dit, écoute, les enfants n'ont rien à voir là-dedans, il faut que... Et j'ai essayé aussi, ce qui est très important, de jamais dénigrer mon ex, de dire des méchancetés devant la petite, quoi. Ce qui fait que ça a établi une complicité. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, je suis content parce que encore maintenant, vous voyez, je vais sûrement la voir, hein, j'espère. Ça dépendra de mes moyens ce week-end. Et même encore à 19 ans, on a besoin à chaque fois de ce contact. Et à chaque fois que je reçois ces petits bouts, c'est magique, quoi.
Alors Gérard, il y a plusieurs choses dans votre témoignage et on va parler aussi avec notre grand témoin. Déjà, Gérard nous dit, on lui a dit, toute petite, tout bébé, est-ce qu'il faut expliquer, quel que soit l'âge des enfants, que les parents se séparent ?
Bien sûr, il faut leur dire avec les mots de leur âge. Un enfant de 2 ans, on va lui parler, ou 3 ans, on va lui parler différemment d'un garçon ou d'une petite fille qui ont 10 ou 12 ans. On est d'accord. Mais c'est important que ça puisse...
À quel moment on le dit ? Quand on sait que ça va vraiment se terminer ? Quand il y en a un qui va partir ?
Tout à fait. Moi, je crois qu'il faut être sûr de partir pour s'autoriser à dire cela à ses enfants. Il est grave d'annoncer ça à ses enfants et de rester ensemble, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut être vraiment sûr pour annoncer cela. Si l'ambiance n'est pas à la révolte et à la bagarre, c'est même une bonne chose d'en parler, que ce soit les deux parents qui parlent ensemble avec leur enfant ou plusieurs de leurs enfants, de se réunir et de leur en parler.
Autre problème, entre guillemets, soulevé par Gérard, il dit, je l'ai les week-ends, on sait que les modes de garde, la garde des papas notamment, est souvent déséquilibrée par rapport à la garde des mamans. Est-ce que c'est facile dans ces cas-là d'être un bon parent quand on ne voit pas beaucoup ses enfants non plus ?
Alors, ça dépend. On voit que Gérard a bien vraiment géré sa parentalité avec sa fille et je crois qu'on peut le faire et on peut réussir, même en voyant ses enfants un week-end ou la moitié des vacances, comme classiquement ça se fait. Alors bon, il y a l'option de la résidence alternée, bon, on peut y revenir, il faut certaines conditions pour l'appliquer.
Il faut que tout le monde soit d'accord, surtout.
Oui, exactement. Il faut que l'ambiance soit sereine. Donc, dans ces cas-là, on peut tout à fait, c'est le cas de Gérard, d'avoir réussi, et il a su bien s'entourer, ce qui est important. Mmh. Parce que quand on est dans le conflit, on a besoin que quelqu'un d'extérieur à soi, au couple, qui puisse un petit peu ramener les choses à leur juste valeur et dans une sérénité qui permet le dialogue après.
Et puis moi j'ai noté aussi, Gérard, vous avez dit, j'ai surtout fait attention de ne jamais dénigrer mon ex-femme. Ça, c'est une des clés de la bonne communication d'un parent séparé.
C'est fondamental. Quand on arrive vraiment à respecter l'autre parent, on est arrivé à quelque chose d'intéressant et d'important pour surtout l'enfant. Et puis le respect aussi des adultes.
Mmh. Bien sûr. Et vous parlez avec votre ex-femme, Gérard ? Vous échangez, même si votre fille est grande hein, aujourd'hui, mais est-ce que ça vous arrive de vous appeler, de vous envoyer des messages ?
Oui, on s'envoie des textos. Bon, c'est pas toujours simple, hein, parce que des fois, en même temps, j'essaie de faire au mieux. Je sais que la gamine, l'autre fois, m'a envoyé un message où elle se posait des questions existentielles sur la mort. Et j'ai texté ça à mon ex en lui disant quand même peut-être elle passait une période trouble, etc. Il serait bon de voir ça, quoi, et suivre. Bon, je sais qu'elle m'a pas répondu, elle était peut-être un petit peu vexée. Et puis par la suite, elle a été lui en parler. Alors ça par contre, ça a été une mauvaise chose parce que il y a une complicité, vous voyez, j'ai eu la gamine me l'a reproché, j'avais un peu l'impression de la trahir en faisant ça. Mais d'un autre côté, bon, quand on pose des questions sur la mort, c'est jamais anodin, quoi. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème, peut-être dans sa vie amoureuse, elle a des soucis ou des tracas, elle veut des vraies réponses, quoi.
Mais comment ça se passe, Noureddine Benzora, dans la tête d'un enfant qui se dit, alors, mes parents s'aiment plus, ils sont séparés, mais en même temps, ils arrivent à communiquer tout ce qui me concerne. Ça veut dire que peut-être ils s'aiment quand même s'ils se parlent. Alors, il y a pas de ça aussi dans la tête d'un
enfant.
Bien sûr,
il y a une espèce d'ambivalence. Alors c'est rassurant, c'est-à-dire que les parents ne continuent pas à s'insulter ou à se dire des choses graves, mais il est certain que vous savez très bien que les enfants, petits ou moins petits, ont toujours dans leur esprit l'idée, qu'on le veuille ou pas, que les parents vont se remettre ensemble. ça ne quitte pas. Même quand il y a par moments dans certaines familles des choses un peu violentes, les enfants veulent que ça change. Des fois, ça change, mais ils sont quand même contents.
Il y a toujours ça au fond.
Voilà, au fond, il y a toujours cette idée de remettre les parents ensemble.
0810 055 056. Comme Gérard, venez nous rejoindre. Merci beaucoup, hein, Gérard, de votre témoignage, mais d'avoir ouvert l'émission.
Merci et bravo pour Gérard.
Hein. Ouais, c'est un bon papa, Gérard, un bon parent, malgré la séparation. Ouais. On en parle ce soir. Vous aussi, venez nous rejoindre pour nous dire comment vous avez fait pour que ça se passe bien ou pourquoi ça s'est pas bien passé, pourquoi ça se passe pas bien encore aujourd'hui avec votre ex-mari ou votre ex-femme concernant les enfants, puisqu'on parle vraiment de la parentalité ce soir sur France Bleu jusqu'à 22h. Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Un couple sur trois est confronté au divorce et même un couple sur deux dans les grandes villes. Au regard des chiffres, ça peut paraître banal. On se dit, bah oui, tiens, ils divorcent. Mais c'est jamais banal pour ceux qui sont directement concernés parce que le divorce est pour beaucoup un échec très dur à surmonter. Et ça l'est d'autant plus quand on a des enfants, car même si on ne veut plus entendre parler de l'autre, il va pourtant bien falloir apprendre à communiquer autrement. On reste des parents avec des devoirs, une autorité parentale partagée. Et parce que l'enfant a aussi besoin de ses deux parents. Comment ça se passe pour vous? Quels sont vos secrets pour être de bons parents séparés ou vos difficultés? On en parle ce soir au 0810 055 056. Notre grand témoin, c'est le docteur Noureddine Benzora, psychiatre et thérapeute familial, co-auteur avec Colette Barouche-Abanol du livre « L'art d'être des parents séparés » aux éditions Albin Michel. Et nous accueillons maintenant Laurence en Lorraine. Bonsoir Laurence.
Oui, bonsoir.
Alors vous, c'est votre ex-mari qui a la garde de votre fille, de vos filles.
Oui, tout à fait, oui, de mes filles, oui.
De vos filles, et la communication, il n'y en a pas.
Non, moi justement, je voulais attirer l'attention sur le fait que qu'est-ce que deviennent ces enfants après un jugement. Parce que il y a une loi en 2 mars 2002 qui dit bien que le dialogue, la communication doit être maintenue entre les enfants et les parents, même le parent qui n'a pas la garde.
Bien sûr.
Donc ça, c'est une loi, mais en pratique, derrière, qui vérifie que ça se passe réellement? Parce que moi, dans mon cas, et dans le cas de nombreuses mamans et de nombreux papas, ça ne se passe pas. C'est-à-dire que les enfants sont complètement coupés du parent en dehors des périodes de garde. Donc moi, j'habite loin de mes enfants. Parfois, il arrive que pendant 16 semaines, jusqu'à 16 semaines, je n'entende pas la voix de mes filles.
Elles ont quel âge, vos filles, Laurence?
Elles ont 10 ans et 12 ans. Donc tout simplement, par exemple, à Noël, je leur ai offert un téléphone portable. En moins d'une semaine, il était confisqué, confisqué immédiatement, et puis très rapidement cassé. Là, moi-même, j'ai lancé une pétition récemment sur le sujet, parce que ça déborde. Quoi.
C'est quoi votre garde? Qu'a décidé le juge par rapport à votre séparation?
Alors, moi, au départ, on avait une garde alternée. Ensuite, j'ai redemandé une garde parce que mes enfants étaient négligés, maltraités. Là, le juge s'est opposé en disant que je mettais volontairement la garde alterne en échec. Donc, il a transféré la résidence des enfants chez le père, puisqu'aucun des deux demandait une garde alternée. Ensuite, j'ai déménagé. Donc, j'habite à plus de 500 km de mes enfants. Et là, plus de contact. Quoi. Malheureusement, plus aucun contact. J'ai déménagé parce que j'ai refait ma vie. Hein. C'est pas...
Mais vous avez un droit de visite quand même avec vos
enfants,
Laurence.
Oui, la moitié des vacances. Ouais.
Et vous les voyez?
Oui, la moitié des vacances, c'est tout.
C'est tout. Oui. Et pendant le reste du temps, il n'y a aucun dialogue possible avec vos filles?
Aucun. Les quelques fois où je peux les avoir au téléphone, c'est sous contrôle du papa. J'entends plus la voix du père que celle de mes filles. Donc j'ai l'impression d'être dans un parloir, en prison. Elles ne sont pas du tout naturelles, elles ne peuvent pas me dire ce qu'elles ressentent, ni quoi que ce soit.
C'est dur, Noureddine Benzora, quand on entend Laurence,
oui,
c'est pas possible, on peut pas être parent dans ces conditions-là.
Exactement. Alors, il est certain que on ne comprend pas qu'est-ce qui fait que le papa vraiment a voulu, dans quel but il a voulu vraiment rompre ce dialogue entre ses enfants et la maman. Est-ce qu'il y a des raisons qu'est-ce qu'il avance comme argument pour faire ce qu'il fait? Je vous pose la question, c'est Laurence, hein, c'est ça? Laurence?
Il n'y a aucun argument, il a décidé que c'était ainsi.
Sauf que la loi peut vous donner raison quand même, Laurence, par rapport à ça.
Oui. Alors justement, je connais d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Ces personnes ont fait constater qu'on soit des huissiers, etc. sont repassées devant le tribunal avec ça. Rien n'est fait, quoi. Rien ne change. On fixe des heures d'appel parfois, qui sont parfois complètement ridicules, puisque pour des personnes qui travaillent, on donne à une heure d'appel, par exemple le jeudi entre 16h30 et 17h30. La plupart du temps, les enfants ne sont pas joignables. Mais derrière, ces situations, rien n'est fait actuellement dans la loi pour vérifier qu'elle soit appliquée. C'est-à-dire que les enfants, après un jugement, sont complètement abandonnés, laissés à la nature. On ne peut plus les contacter, ni les aider s'ils ont des problèmes, parce qu'un enfant a besoin de ses deux parents. Il a besoin d'appeler sa maman, il a besoin d'appeler son papa,
bien
c'est
sûr.
Normal.
Oui.
Donc, mais derrière, en France, il n'y a rien pour vérifier. Donc quand vous demandez à une assistante sociale, est-ce qu'il serait possible de faire bouger les choses, on vous répond, il n'y a pas les moyens pour s'écrire illusoire, c'est impossible.
Et une association de défense des parents aussi, enfin, je sais pas, il y en a pas mal d'associations.
Il y a beaucoup d'associations, il y a SOS Maman, SOS Ses Enfants qui se battent beaucoup pour ça. Il y a aussi des associations de papas.
Oui.
Et derrière, en pratique, au quotidien, moi je peux vous dire que parfois, il arrive que pendant 16 semaines, je n'entends pas la voix de mes deux filles et elles n'entendent pas la voix de leur maman alors qu'elles ont besoin à des âges aussi... de se confier à leur mère.
Quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, Laurence.
Quel que
vraiment.
Soit l'âge, oui. Tout à fait.
Alors, moi je voulais savoir si Laurence s'est tournée vers un avocat pour défendre ses intérêts auprès du juge, qui en général c'est lui qui a le droit de décision, et s'il en a le droit.
Mais après, comment on vérifie ça? Comment on peut faire
mais déjà,
vérifier?
Je pense que quand même, c'est important de ramener ça au juge pour justement peut-être revoir justement ce mode de garde qui ne convient pas du tout, puisqu'elle est coupée de ses enfants. Moi je pense déjà qu'il y a cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers des associations, mais je pense que c'est déjà au moins une possibilité de revoir ce mode de garde qui est à la limite du syndrome d'aliénation parentale, vous savez, où les parents essayent de détourner les enfants de leur autre parent.
Moi, j'ai envie de vous demander, Laurence, comment ça se passe quand vous retrouvez vos filles là? Je pense que bientôt, là, il y a les vacances de février. Vous angoissez l'idée de les retrouver après tant de temps passé sans communication?
Non, je me réjouis, je vais profiter de chacune des minutes que je vais passer avec elle.
Et la communication se passe bien entre vous?
Oui, elle est formidable.
Et là, vous avez des infos, vous arrivez à en parler avec vos filles de pourquoi on ne peut pas se parler, pourquoi papa ne veut pas qu'on se parle? Ou est-ce que c'est un sujet un peu tabou et vous évitez d'en parler?
Moi, si elles ne m'en parlent pas, je ne m'en parle pas. Je ne veux pas les mettre mal à l'aise parce que les enfants sont pris dans un espace de conflit de loyauté, quoi qu'il arrive. Donc, je ne leur en parle pas spontanément, mais elles, quand elles ont besoin d'en parler, elles en parlent et elles expliquent bien qu'elles n'ont pas le droit. C'est interdit. Donc, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous dire leur âge, Laurence, à moins que vous l'ayez dit au début?
Quel âge? Elles ont 10 ans et 12 ans.
Ah oui, quand même, elles sont grandes.
Ouais. Et l'idée du téléphone portable, c'était une bonne idée pour Noël?
Oui, le problème, c'est que ça n'a pas fait long feu, entre guillemets, puisque la première semaine, donc, il a été confisqué. Elle le subtilisait quand papa et belle-maman n'étaient pas là. Mais je pense qu'il a saisi la combine et puis ça a été... voilà.
Laurence,
elle m'a pris en cachette, oui.
Mais est-ce qu'on peut vous rappeler d'ici quelques mois, prendre de vos nouvelles? On le fait dans l'émission Que sont-ils devenus, pour savoir si les choses changent, bougent avec les associations, la pétition, tout ça?
Sans problème, vous pouvez me rappeler, mais je pense qu'il n'y aura rien qui n'aura changé, puisque la loi française ne veut pas changer à ce sujet. D'ailleurs,
est-ce que vous avez fait une démarche auprès du juge à nouveau?
J'en ai fait 5.
Oui, et qu'est-ce qu'ils vous répondent?
Ah ben, au fur et à mesure, plus vous... En fait, le problème, c'est que dans l'engrenage juridique, vous mettez la main, puis après, il y a tout le bras qui passe. Après, vous passez pour l'emmerdeuse au service. Donc,
vous devrez vous faire soutenir par un avocat. Je sais que financièrement, c'est un engagement.
Oui,
mais je pense que ça pourrait être quand même un biais, parce que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être pour au moins revoir le mode de garde.
Laurence, merci de nous avoir appelés. On vous souhaite bon courage, parce que c'est très, très dur, la situation dans laquelle vous êtes. Et puis, bien sûr, on ne vous lâche pas. Et on prendra de vos nouvelles d'ici quelques mois. Être des parents séparés, c'est le sujet d'On se dit tout, avec vos témoignages au 0810 055 056. Comment vous faites pour garder le contact? Comment vous faites pour communiquer aussi sur l'éducation, les choses à faire, à voir pour vos enfants? Venez nous rejoindre, on vous attend sur France Bleu jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Être des parents séparés, c'est le thème qu'on a choisi ce soir sur France Bleu. Beaucoup de questions se posent quand on est des parents séparés. Comment gérer l'éducation, l'école? Comment ne pas faire entrer les mots égo, revanche, colère quand il s'agit de penser avant tout au bien de ses enfants? Comment on dialogue quand on ne s'aime plus ou quand il y a quelqu'un d'autre dans la vie de l'un ou de l'autre? Comment on fait pour ne pas monter son enfant contre l'autre conjoint, inconsciemment parfois? Ça fait beaucoup de questions tout ça, et on pourrait aussi parler des familles adoptives, collective homoparentale. On a beaucoup de choses à se dire et ça tombe bien, on est ensemble jusqu'à 22h 0810 055 056. On vous attend avec le psychiatre et thérapeute familial Noureddine Benzora, co-auteur du livre L'art d'être des parents séparés chez Albin Michel. Et nous sommes maintenant chez Sylvie en Isère. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Alors on va avoir plein de profils très différents ce soir. On a eu un papa pour qui ça a été compliqué au début, mais ça se passe pas trop mal. On a eu Laurence à l'instant pour qui le dialogue est très compliqué, voire impossible. Et puis il y a vous. Alors là on a l'impression que c'est le divorce idéal. Quand je lis votre fiche, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous.
Écoutez, oui, c'est vrai. Honnêtement, c'est ce que je peux dire aujourd'hui et puis même depuis déjà pas mal d'années. C'est-à-dire que bon, nous avons été mariés, mon ex-mari et moi. Moi, je vais l'appeler Franz, hein, comme ça, ce sera plus sympa. On était mariés 8 ans, on se connaissait avant. Nous avons eu 2 adorables filles. Et quand nous avons divorcé, elles avaient 2 ans et 5 ans, donc elles étaient petites. On a divorcé en fait pour pas mal de raisons en fait qui étaient annexes à nous deux. Et donc voilà. Bon, attendez, j'étais dérangée, c'est pour ça. Que... Excusez-moi.
Qu'est-ce que vous vous êtes donc, dit au moment
un petit peu étrangère à nous, hein. Donc enfin, ceci explique cela. Et donc l'important pour nous deux, c'était vraiment de garder une cohésion, un amour avec nos filles. Voilà, et donc on les a entourés chacun, etc.
Et vous avez posé les choses à plat, vous avez dit, bon alors ok, on sépare, mais comment on fait pour les enfants? Vous avez fait un plan d'attaque un peu?
Ah oui, oui c'est ça. Et comme elles étaient petites en fait, ils venaient les voir à la maison quasiment tous les jours. Et après, on a établi un autre plan parce que finalement, il voulait les prendre après chez lui, ce qui est tout à fait normal. Et puis, c'était leur demande aussi aux filles. C'est ce qui s'est passé secondairement. Puis, on a toujours eu la chance de... Enfin, on a fait en sorte d'habiter l'un près de l'autre. Et après, c'était une demande de leur part de transiter un petit peu chez papa, maman.
Selon leurs envies à elles.
C'est ça. Écoutez, puis on a toujours été, on menait une éducation conjointe et on s'est toujours concerté. Et puis tout ça avec beaucoup d'amour. Et bien écoutez, ça a fait tout le reste. Hein. Aujourd'hui, elles sont, l'aînée a 32, la seconde à 29. Et elles nous ont dit, on a l'impression de pas être issues de parents divorcés. Donc c'est le plus beau cadeau qu'elles aient pu nous faire de nous dire ça. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, mon ex-mari, voilà.
Alors c'est vrai que là, c'est un cas très particulier. Oui. Hein. C'est rare des parents divorcés qui s'entendent aussi bien.
Tout à fait. Oui, écoutez, bravo, c'est quand même une vraie réussite.
Le dialogue, on a énormément parlé. On a voulu s'expliquer. Depuis toujours, on a beaucoup parlé. Et aussi à nos filles. Et c'est ce qui a maintenu ce climat et qui le maintiendra toujours. Parce que maintenant, il y a une telle complicité et de la tendresse finalement qui reste. Il n'y a plus d'amour.
Moi, j'ai une question à vous poser, Noureddine Benzora. Est-ce que c'est bien de laisser les enfants décider, entre guillemets, quand on s'entend bien, quand les parents sont séparés, de dire, bah, les filles, là, en l'occurrence, vous faites comme vous voulez être chez papa, vous êtes chez papa, vous voulez être chez maman, vous êtes chez maman. C'est bien ça de laisser cette liberté aux enfants?
Bien sûr, je pense qu'à partir du moment où ça rentre dans une espèce d'harmonie, comme c'est le cas là, pourquoi pas, quand tes enfants sont grands, qu'ils préfèrent et que tout le monde est d'accord, pourquoi pas, à partir du moment où ça relève de leur équilibre, de leurs envies, il faut respecter cela.
Donc c'est-à-dire que pour vous, Sylvie, il n'y a pas eu un jugement, il n'y a pas eu de choses établies, écrites noir sur blanc par un juge en disant la garde c'est comme ça et vous avez respecté ça?
En fait si, ça l'était, mais on a eu le même avocat pour le divorce déjà, donc on s'entendait, si vous voulez, déjà bien à ce moment-là, si je puis dire. Et donc c'était établi, il y avait des choses établies, mais
oui, après, si on n'est pas en guerre, on fait ce qu'on veut.
Non, Mais c'est ça, c'est ça. Bon, après, on n'a pas fait les choses d'une façon anarchique non plus, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas qu'elle soit un jour chez papa, le lendemain chez maman. Mmh. Vous voyez, ça aurait été très compliqué avec les affaires scolaires avec Julie, etc. C'était pas de cet ordre-là. Mais après, en grandissant, ça pouvait l'être une fois qu'elles étaient autonomes. Pour se déplacer, elles ont fait ça à un moment donné.
Et c'est, voilà. C'est important d'avoir un cadre pour les enfants. Les enfants parlent souvent, on parle souvent des enfants valises, partir d'un côté, de l'autre. Ils ont besoin, les enfants, de savoir exactement à l'avance à quoi va ressembler leur journée, leur semaine. C'est important, ça?
Alors, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'histoire des valises, c'est souvent dans les résidences, dans la résidence alternée, quand ils passent d'une semaine à l'autre chez papa ou chez maman, c'est vrai que là, c'est important qu'ils gardent toujours à peu près les mêmes repères, que ça soit dans une maison ou dans une autre. Et les enfants, qu'on le veuille ou pas, sont très ont des capacités, une certaine souplesse pour s'adapter, à condition, bien sûr, comme dans ce cas-là, qu'il y ait un dialogue entre les parents, et ça aide énormément.
Merci Sylvie, merci bravo de nous avoir appelé. Sylvie. Ouais, bravo parce que c'est ouais, vraiment un cas
très bien.
Très à part, mais ça fait du bien aussi de se dire qu'il y a des divorces qui se passent bien et que même si on ne s'aime plus, on est des bons parents, on reste de bons parents. Venez nous rejoindre et venez en parler vous aussi au 0810 055 056. Comment vous avez fait, vous, dans le dialogue, pour être de bons parents, malgré votre séparation? Quelles ont été peut-être les difficultés aussi? Comment vous avez annoncé votre séparation aux enfants? Pour aborder aussi ce sujet-là, à quel moment on le fait? De quelle façon? Est-ce qu'on le fait tous ensemble? Est-ce qu'on prend les enfants à part? Vraiment, c'est intéressant de voir ça avec vous. 0810 055 056, la suite de vos témoignages dans un instant.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Parents mais séparés, on en parle ce soir sur France Bleu dans On se dit tout. Autorité parentale partagée, dialogue compliqué, prise de décision, communication, comment ça se passe pour vous malgré la séparation? Est-ce qu'il y a eu des étapes, des hauts, des bas? Venez en parler au 0810 055 056. Notre grand témoin, c'est le docteur Noureddine Benzora, co-auteur avec Colette Barou-Chabanol du livre L'art d'être des parents séparés aux éditions Albin Michel. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Vous êtes en Alsace, Christophe?
Oui.
Alors, c'est le jeu des sept familles, c'est un peu ça. Hein. Pendant le disque, j'essayais de comprendre votre histoire. Vous avez été mariée, vous avez divorcé, et vous vous êtes mis en couple avec une femme qui a été mariée et qui a divorcé aussi.
Oui, tout à fait.
Waouh, j'ai réussi à synthétiser l'histoire.
Une famille recomposée.
Famille recomposée avec des deux côtés, là.
Oui.
Ça s'est bien passé pour vous deux, vos divorces, la communication, les enfants?
Ben, c'est ça qui est extraordinaire, parce que le divorce, c'est toujours une séparation, c'est compliqué. Mais par contre, après, la recomposition, c'est très, très bien passé. Les enfants se sont très bien entendus.
Ouais, déjà, c'est important. C'est vrai que...
Les enfants, à quel âge, s'il vous plaît?
Ah ben, au moment du divorce, ils étaient, le garçon de madame, il avait 14 ans, ma fille avait 13 ans et l'autre fille avait 12 ans.
Oui, donc ouais, des ados quand même.
Des ados, ils se sont retrouvés.
Très bien. Oui,
alors
oui,
moi j'aimerais qu'on parle de votre première histoire, Christophe, de votre cellule familiale, la première avec votre ex-femme et vos enfants. Comment vous l'avez annoncé à vos enfants d'ailleurs?
Ah, ça s'est annoncé un peu difficilement, un peu dans la violence, puisque madame est partie, pas dans la bagarre, mais c'était très violent et ça s'est pas bien fait.
Ah oui?
Alors, pas du tout.
Mais après, vous avez pu apaiser les choses tous ensemble?
Ben après, ce qui s'est passé, c'est que mes deux filles sont restées chez la maman, mais avec l'amour, au bout de 5-6 années, les filles sont venues chez le papa.
Avec l'amour, j'aime beaucoup ça. Ben ouais, c'est tout l'amour, c'est magique. Et pour votre compagne actuelle, son divorce à elle, c'est bien passé aussi?
Non, comme un peu comme chez moi, mais c'était plus financier. Mais pareil, son enfant est venu dans la nouvelle cellule familiale avec l'amour.
C'est vrai qu'il faut penser à tout ça, Noureddine Benzora, les familles recomposées, c'est une nouvelle donne de la famille aujourd'hui.
Bien sûr, c'est des choses qui se voient de plus en plus, et comme on le voit dans cet exemple-là, c'est quand même une famille qui s'est recomposée avec en reprenant quelque chose de très fort autour, comme dit monsieur, de l'amour avec les enfants, mais où on voit que ça fonctionne, d'autant plus que là, il y a la chance aussi que les enfants, il y a une espèce de fratrie, alors qu'ils ne sont pas frère et sœur, il y a une fratrie qui s'est, d'après ce que j'entends, hein, qui s'est vraiment faite, et on sent quand même quelque chose qui se passe dans cette famille.
Mais est-ce que ça communique quand même bien avec votre ex-femme, et est-ce que votre conjointe, elle communique bien aussi avec son ex-mari, parce que c'est important de communiquer pour les enfants?
Alors là, ça c'est un autre débat. Je voulais rebondir sur ce que monsieur disait tout à l'heure. C'est une vraie fratrie. Maintenant, puisqu'ils s'appellent frères et sœurs, ils sont complètement frères et sœurs. Mmh. Alors c'est bizarre, mais la maman des filles, on n'a plus de contact. Le papa du garçon, on n'a plus de contact. Il n'y a plus aucun contact.
Avec leurs propres enfants?
Ah oui, tout à fait. Le papa du garçon n'a plus payé la pension alimentaire depuis bien longtemps. Et la maman des filles paye la pension alimentaire, mais n'a plus zéro contact depuis 2007.
Comment ça s'explique, ça, Christophe? Qu'est-ce qu'elle avance comme argument par rapport à ça?
Ben, comme je n'ai plus de contact, je ne sais pas quoi vous dire. Et puis, je comprends pas. Mais bon, la maman paye encore la pension alimentaire des deux filles, puisqu'elles font des études un peu partout sur la planète.
Mais elle ne voit pas ses enfants aujourd'hui?
Pas du tout, depuis 2007.
Et vos filles, elles le vivent comment?
Ma nouvelle femme est leur maman. C'est impressionnant, hein?
Oui, enfin, oui et non en même temps, parce que la maman reste la maman quand même, Christophe.
Pas dans ce cas-là, non.
Oui. Et les enfants revendiquent quelque chose par rapport à leur maman. Est-ce qu'ils cherchent à la contacter? Ils en parlent ou c'est quelque chose vraiment qui est rompu?
Ils ont essayé de la contacter au bout de quelques années. Mais de toute manière, quand ils sont partis de chez leur maman, elles avaient leurs deux valises devant la maison, puis elles sont rentrées chez moi. Mais ils ont essayé de les recontacter il y a un ou deux ans, puis c'était un échec.
Donc il y a eu une rupture entre la maman et les enfants?
Total, comme avec le papa et le garçon de Béatrice. Mmh.
Ça arrive. Là, c'est pas la faute de l'autre conjoint, l'autre parent en l'occurrence.
Oui, mais bon, heureusement que dans cette nouvelle famille, ils ont trouvé quand même des repères importants.
Mmh. Christophe, merci d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu. Moi, j'aimerais qu'on parle des familles recomposées. Parfois, le dialogue est compliqué entre les parents quand il y a une autre personne qui arrive dans la vie de l'un ou de l'autre.
Bien sûr,
peut changer le dialogue.
Bien sûr, ça change la donne parce que les enfants vont être un petit peu loyauté vis-à-vis de leurs parents avec lesquels ils vivent. Par exemple, des enfants qui vivent avec leur maman et qui vont et que le papa a trouvé une nouvelle amoureuse, comme ils disent, c'est un peu compliqué. On va pas se laisser apprivoiser, d'autant plus qu'ils auront l'impression que s'ils se rapprochent de cette nouvelle personne, maman va se sentir délaissée ou rejetée.
Mais je parlais vraiment de la communication entre les adultes. Est-ce que la communication peut être parfaite entre les deux parents et puis d'un seul coup, la communication change un peu de son aussi?
Alors, ça dépend. S'il y a un dialogue et que si on a fait, comme je dis, le deuil du couple d'avant et que les choses sont sereines, en général, ça se passe bien. Oui, il y a un respect, donc on accepte que l'autre fasse, comme on dit, sa vie.
0810 055 056, c'est le numéro pour nous rejoindre sur France Bleu et nous parler de votre expérience à vous, de parents séparés. Comment vous l'avez annoncé à vos parents, à vos enfants, à vos parents si vous voulez aussi, mais à vos enfants particulièrement. Comment ils ont réagi et puis comment on fait pour dialoguer, discuter, communiquer. C'est un peu la base de toute relation et même quand on est séparés. Venez en parler avec nous. On vous attend jusqu'à 22h en compagnie du docteur Noureddine Benzora. Il a coécrit avec Colette Barouche-Abanol le livre « L'art d'être des parents séparés ». C'est aux éditions Albin Michel.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Divorce et parentalité, c'est le sujet d'On se dit tout avec vos appels, vos témoignages, vos expériences de parents divorcés, couple classique entre guillemets, couple homosexuel, couple adoptant. Les problématiques sont évidemment différentes, mais on reste parents quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez établi un contrat moral? Est-ce qu'il faut se retrouver autour de la table tous ensemble régulièrement pour poser les choses? Est-ce que vous avez dû faire appel à un médiateur familial par exemple? Jusqu'à 22h, on parle de tout ça avec vous au 0810 055 056 et direction Mérignac tout de suite pour rejoindre Nathalie. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
Pour vous, ça s'est bien passé?
Oui, ça s'est bien passé. Alors, je veux pas être trop longue, mais juste pour vous expliquer un petit peu le contexte. Le papa de mes enfants et moi-même, nous sommes séparés en 2000. Et on a divorcé en 2002. Et entre-temps, donc on a eu deux rendez-vous avec le juge. Mmh. Et le juge nous a regardé droit dans les yeux en nous disant, s'il vous plaît, entendez-vous, faites des efforts, vous êtes des adultes, vous avez su faire des enfants, maintenant il faut penser à eux, faire attention à ce que vous dites de l'autre devant eux, de manière à en faire des enfants équilibrés et pas des voyous que je vois tous les jours à cause de ça, entre autres. Donc déjà ça m'a vraiment frappée. Et je l'ai toujours gardé en tête et j'ai toujours fait attention à ça. À ne jamais dénigrer l'autre parent devant les enfants en me disant c'est la moitié de leur temps. Si je critique, si je juge leur papa, quelque part je leur fais du mal directement. Mmh. Et je vois effectivement autour de moi des amis ou de la famille qui ont divorcé également, qui font des commentaires très négatifs, voire des jugements très durs devant leurs enfants. Et je vois la réaction des enfants, c'est dur pour eux, très très dur.
Oui, quand on attaque l'autre parent, on attaque indirectement ses enfants, ça leur fait de la peine.
Voilà, donc je pense que vraiment, il faut garder ça en tête, on est des adultes, il faut vraiment faire attention pour eux et il faut avoir conscience qu'on fait du mal à nos enfants si on dit du mal de leur papa ou de leur maman devant eux. Il faut vraiment faire attention à ça.
Ça, vous l'avez entendu, Noureddine Benzora, de la part d'enfants qui disaient ne pas supporter d'entendre leurs parents critiquer l'autre parent.
Mais bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est horrible pour les enfants d'entendre cela. Leurs parents, ils les aiment, les deux, quoi qu'il arrive. Et que c'est vrai que de sentir ou d'entendre que l'autre, le parent va critiquer ou dire du mal, ou même des fois, ce sont des grands-parents qui disent du mal aussi. Donc c'est quelque chose de pas très recevable.
Le mot du juge qu'a vu Nathalie, c'est exceptionnel. Alors, le juge est là pour juger, pour être dans quelque chose de très carré. Et là, il sort un petit peu du cadre, c'est
absolument,
génial.
Absolument, il a été psy aussi. Il a été de bons conseils, c'est...
Ça marque aussi, oui, Nathalie, oui. Ces paroles-là. Hein.
Ah oui, ouais. Vous voyez, 18 ans après, je me souviens encore de son nom. Moi qui n'ai pas une bonne mémoire.
ouais, comme quoi, on se dit...
C'était une bonne rencontre, ce juge, en tous les cas.
Exactement. Je voulais me permettre, excusez-moi, je vous interromps, je voulais également vous faire part d'un autre témoignage. C'est au début, donc on s'est séparés en 2000, on a divorcé en 2002. Donc il y a eu 2 ans qui se sont passés. Et pendant ces 2 ans, en fait, on ne savait pas trop si on allait réellement divorcer ou pas. On se disait, bon, alors voyons, on va essayer de vivre chacun de notre côté. Est-ce qu'on se remettra ensemble? Bon, on ne sait pas. Et puis au bout de 6 mois, on s'est dit, bon, ok, ça ne va pas. On enclenche la procédure de divorce. Et comme on trouvait pas un logement ni l'un ni l'autre, on n'avait pas forcément les moyens non plus, on s'est dit, ben on va s'en aller, nous, de façon alternative. Une semaine, ça va être moi qui pars, et la semaine d'après, ça va être le papa.
Et c'est les enfants qui ont gardé la maison.
Exactement, les enfants ont gardé la maison. Enfin, ils avaient 2 ans, hein, 2-3 ans. Donc c'est eux qui sont restés à la maison. Mais ça a eu 2 avantages. Le premier, c'est que ça ne les a pas trop déstabilisés, puisqu'ils gardaient leur repère. Leur repère. Et le deuxième, que je trouve vraiment intéressant avec le recul que j'ai maintenant, c'est que ça nous a fait prendre conscience de ce qu'on va leur faire subir. Parce qu'on l'aura vécu nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que toutes les semaines de faire sa valise, de partir, d'aller ailleurs, eh ben, c'est pas facile.
Ça se fait pas beaucoup quand même de voir des parents dire, bon, ben, c'est les enfants qui gardent, entre guillemets, hein, la maison, et c'est nous qui allons bouger.
C'est des choses qui se voient, qui se pratiquent, c'est une bonne chose, mais ça a des limites. C'est quand l'un des conjoints trouve quelqu'un dans sa vie, et ça déséquilibre, et c'est difficile de gérer ce genre de choses. Mais sinon, c'est une bonne chose, en tous les cas,
au comme départ, dans ce cas-là. Ça peut être pas mal. Nathalie, merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage. Et si jamais ce juge se reconnaît et nous entend, et ben, on le salue parce que ça a été vraiment une très, très bonne parole. Ophélie nous a rejoint depuis l'heure. Bonsoir, Ophélie.
Bonsoir.
Alors vous avez eu un enfant d'une première histoire.
Une première histoire qui a duré pendant 8 ans.
Oui.
On a mis 5 ans pour concevoir Maxime parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu un bébé né par insémination, donc Maxime. Donc ça a été 5 fausses couches, 1500 piqûres d'hormones, un long traitement. Et 2 ans et demi après, on s'est séparés parce qu'on ne s'entendait plus.
Ça arrive.
Ça arrive, donc ça a fait du mal à tout le monde, à ma famille, à la sienne. Et moi, 7 à 8 mois après, j'ai refait ma vie, comme par hasard, vraiment avec quelqu'un que j'avais connu à l'âge de 16 ans. Donc mon premier amour de jeunesse, on va dire ça comme ça. Donc on a eu peu de temps après un petit garçon qui s'appelle Evan. Lui, mon conjoint actuel, en a déjà 2. Donc ça fait déjà 4 garçons à la maison quand même.
Ça et, bouge.
Oui, ça bouge. Je vous confirme. Et mon ex-conjoint vient à la maison, on fait Noël ensemble, on part en vacances ensemble. Mon mari actuel et mon ex-conjoint font du jardin ensemble. Et ça se passe à merveille.
C'est génial, ça.
Bravo.
C'est génial. Il a fallu du temps quand même un petit peu.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus.
Ah non, du tout, du tout. C'est mon conjoint actuel qui a proposé à le papa de Maxime, mon ex-conjoint, de rentrer à la maison, de dire, écoute, viens, rentre et vois où vit ton fils. Vois dans sa chambre. Il est rentré petit peu par petit peu et depuis, maintenant, c'est devenu un super ami. D'ailleurs, même mon petit garçon qui a âgé de 7 ans, Evan, l'appelle copain. Parce que les deux s'appellent Sébastien, donc c'est pas évident. Donc, et maintenant, ça se passe à merveille. Et moi, j'ai rendu ma location à mon ex-conjoint, pour que Maxime garde ses repères de petit garçon.
C'est génial. Oui. J'adore, moi, les histoires comme ça.
Bien sûr, c'est très bien, ça, d'avoir réussi. Bon, ça arrive, c'est la preuve, c'est que c'est des choses qui se réalisent. Et dans l'intérêt, bien sûr, là, on voit très bien des enfants qui se sentent un peu à l'aise. Alors, juste un petit point là-dessus. Il est certain que ce genre de choses peuvent se faire quand les enfants ont vraiment tourné la page. Parce que quand ça se passe un peu trop tôt, les enfants ont toujours l'impression...
Ils ne comprennent pas toujours non
plus. Ils ne comprennent pas très bien, ils ont toujours cet esprit où les parents vont peut-être se remettre ensemble, etc. Donc je pense que là, la page était tournée et vos enfants ont bien accepté la situation.
Et le fait que ce soit le nouveau conjoint d'Ophélie qui tende la main, qui ouvre la porte, là le lien il est parfait.
C'est une ouverture d'esprit que rarement dans ces situations on peut avoir.
Bravo. Bah c'est, ouais, bravo. Vraiment ça fait du bien aussi à entendre votre histoire, Ophélie. Merci beaucoup, merci d'être venu témoigner. Vous avez trouvé l'art d'être des parents séparés, pour reprendre le titre du livre de notre grand témoin, Noureddine Benzora. On n'oublie pas Colette Barouche-Abanol, qui a coécrit le livre avec vous, c'est important. Et c'est aux éditions Albin Michel. Vous aussi, rejoignez-nous, on est encore ensemble pour quelques minutes, hein, jusqu'à 22h, pour nous parler de votre façon à vous de voir la parentalité malgré votre séparation, malgré le divorce. Est-ce qu'il y a eu des étapes? C'était difficile au début, ça va mieux maintenant? Ou le contraire, hein, parfois, ça se passe très bien au début, on se dit, ça va être super, on va être des super parents divorcés, on restera toujours en contact et puis malheureusement ça se passe pas si bien que ça. 0810 055 056 c'est le numéro pour nous rejoindre et on se dit tout.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Comment dire à ses enfants qu'on va se séparer? À quel moment leur dire? Est-ce que c'est plus compliqué à un certain âge pour les enfants? Je pense notamment à l'adolescence. Ce soir, on parle de parentalité, sur comment être un bon parent malgré la séparation. On rentre pas dans les dédales de la procédure judiciaire de votre divorce, mais vraiment sur le dialogue, la communication entre les deux parents au sujet des enfants et avec vos enfants également. Et puis, comment on fait pour prendre des décisions à deux malgré la séparation? Comment on fait quand l'un des deux veut tout dire pour l'éducation des enfants? Comment trouver sa place? On en parle avec vous et avec le docteur Noureddine Benzora, co-auteur du livre « L'art d'être des parents séparés » aux éditions Albin Michel. Et nous partons à Perpignan chez Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors vous,
bonsoir.
Votre séparation est toute récente, c'était en juin dernier.
Oui.
Ça fait 8 mois, comment ça va? Comment ça se passe?
Ah ben là ça va mieux. Ça va mieux parce que le jugement de divorce a été donné le 12 décembre. On a fait un divorce à l'amiable, donc c'est allé très vite, je m'en suis occupé. Mais c'est vrai que sur le moment, mon ex-femme était dans un ressentiment de souffrance terrible. Et, bon, elle avait
c'est vous qui avez pris la décision, Nicolas?
Alors, moi, j'avais demandé qu'on arrête le couple un an avant, en fait. Parce que je me sentais plus heureux du tout et j'étais... malheureux de sentir que je l'aimais plus, mais en même temps, j'avais besoin de lui dire et elle m'avait demandé une chance. Donc je lui ai laissé sa chance, c'était une autre chance. Donc on était partis pour un an de... Mais moi je savais que c'était fini, mais bon, je pouvais pas quitter la mère de mon fils dépressive, malheureuse, accrochée à moi en pleurs. Donc, j'ai laissé... J'ai joué le jeu, en fait. Voilà. Même si je savais que c'était pas...
Enfin, donc là, au début de la séparation, forcément, c'est dur. Vous la voyez triste.
Ouais.
Et du coup, ça se ressent aussi sur votre relation avec votre enfant, sur la garde, sur la discussion, sur les échanges.
Ben, on n'a pas pu parler de ça, en fait. Pendant un an, on est resté en couple comme tous les couples. Et puis, un jour, elle a eu sa crise. Elle est partie en claquant la porte, quoi. Voilà. Parce qu'elle avait compris. Et c'est là, moi, à ce moment-là, moi, j'ai investi un psy, en fait. Voilà comment j'ai fait. Alors, j'ai pas compté sur elle, parce qu'en fait, j'ai compris qu'elle était dans autre chose. Elle avait d'autres choses à vivre que de s'occuper de la transition. Par contre, je lui ai dit, et elle m'a fait confiance. Donc, moi, je suis allé voir un psy pour accompagner, pour savoir comment on allait j'allais gérer la psychologie avec mon fils, comment lui dire tout ça. Et elle m'a fait confiance. Enfin, moi j'ai pris le relais parce que j'étais plus solide en fait, pour faire face à. Et elle avait son aventure, elle avait. Ça a été très difficile pour elle, vraiment.
Comment vous êtes organisé pour votre fils à ce moment-là, précisément ?
Alors lui, on l'a épargné de tout quand même. Hein. On a vraiment bien composé. Hein. Lui, il n'a pas eu de. On n'a jamais dit du mal de l'un de l'autre, tout ça. Et lui, en fait, il avait compris qu'il se passait quelque chose de grave parce qu'il voyait qu'il y avait des discussions longues dans la cuisine, alors que d'habitude, il jouait dans sa chambre, il venait les écouter. Il avait tout compris. Hein. Et donc, on a choisi de lui dire. Alors voilà, moi, j'ai pris le parti de lui dire avec mon ex en face, calme. On était très très concentrés, on n'était pas émus. Et c'est moi qui ai parlé. Et je lui ai dit, voilà, Thibaut, papa, maman ne s'aiment plus assez pour vivre ensemble. Donc voilà, papa, c'est plus la copine de maman. C'est pas la, voilà, et maman non plus, c'est plus l'amoureuse. Donc on est ta famille, on sera ta famille sur la fin de tes jours. Je t'aime toujours et maman aussi.
C'est des mots très forts, ça. Je vous coupe, Nicolas, mais juste pour faire le point avec Noureddine Benzora, les mots qu'a employé Nicolas sont les bons.
Tout à fait. Nicolas s'est bien pris avec son enfant. Il a dit ce qu'il fallait. Bravo.
On est ta famille, quoi qu'il arrive. C'est beau,
sûr,
ça. La notion de famille, de cellule familiale. Et aujourd'hui, 8 mois plus tard, comment vous gérez et votre petit garçon, il est chez votre ex-femme, il est avec vous. Comment ça se passe?
Garde alternée, moi j'ai eu la garde alternée la vraie, hein, une semaine sur deux.
D'accord.
Au début, ma femme, elle voulait pas me la donner. Ça a été dur parce que elle me faisait pas confiance. Elle avait raison et c'était à moi de démontrer la capacité de pouvoir gérer un enfant une semaine sur deux. Donc je me suis remis en cause et puis j'ai compris que j'avais un challenge à jouer. Et j'ai gagné mon fils en fait en... Comme dit Pascal Obispo, on gagne un amour comme on gagne un noblesse, quoi. Parce que elle était un obstacle à ma relation avec lui. Parce qu'un couple va mal, en fait, on s'en rend pas compte, en fait. J'avais pas de lien avec mon fils véritablement, de père aimant et mater. Enfin voilà, je sais pas, j'avais pas ce lien-là. Enfin, moi, le divorce, je le vois comme vraiment une histoire d'amour avec mon fils qui commence.
Qu'est-ce que vous racontez dans votre livre ? Et si c'était une révélation, finalement, la séparation ?
Tout à fait. Parfois, on renoue. L'enfant renoue avec le parent qui était peut-être ou accaparé par son travail ou qui n'était pas influent dans sa vie. Tout d'un coup, il y a des révélations. Et bien sûr, se nouent de nouvelles relations très fortes avec le parent.
Et je vois sur votre fiche, Nicolas, vous nous avez dit au standard, le petit essaye de nous manipuler, ça nous unit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bah oui, parce qu'au début, mon ex-femme était psychorigide sur la garde. Elle ne communiquait pas avec moi du tout sur la coordination avec mon fils. Enfin, elle était dans une autre vie. Aujourd'hui, je l'ai compris. Sur le coup, c'est dur. Hein. Bah, elle avait autre chose à vivre. Bon. Et le fait que le petit soit... Bah, il a 7 ans, 6 ans, il arrive à 7 ans, il est plutôt difficile quelquefois. Et c'est en fait ces difficultés qu'elle a, elle, avec son enfant, qui la rapproche de moi, en fait. Ça nous a rapprochés beaucoup. On essaye de s'unir davantage pour coordonner la discipline, par exemple, sur l'usage des consoles de jeu, par exemple.
Très bien.
C'est pas évident, hein. Ces enfants...
Oui, très bien.
Ça arrive souvent, c'est-à-dire qu'on ne se parle pas beaucoup, et finalement, l'enfant qui essaye de manipuler l'un ou l'autre, c'est là où, finalement, on doit se mettre d'accord l'un et l'autre.
Bien sûr, ça a poussé les parents à être d'accord. Et c'est une bonne chose.
Et à communiquer.
Bien sûr. Et d'autre part, moi, je trouve que c'est vraiment... votre fils est rassuré, et c'est pas toujours évident de passer d'une maison à l'autre, mais apparemment ça a l'air de bien se passer
ouais.
Au fond.
Nicolas, merci pour votre témoignage d'être passé par France Bleu ce soir. On parle de la séparation, mais du fait d'être parents, quoi qu'il arrive, on reste une famille. Moi, j'ai bien aimé les mots de Nicolas. On s'aime plus, mais on t'aimera toujours parce qu'on est ton papa et ta maman. Ouais. Comment vous l'avez annoncé, vous, à vos parents, à vous? J'ai vraiment du mal à vos enfants ce soir, je confonds les paroles. Mais on peut aussi parler de comment la cellule familiale, de façon très large, a accueilli cette nouvelle. Comment on fait pour être parent quand on est divorcé, séparé? Venez nous rejoindre pour en parler jusqu'à 22h sur France Bleu au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
On peut se séparer de son conjoint, mais rester parent, comment en parler aux enfants, comment prendre les bonnes décisions à deux, mais séparés, comment bien s'entendre quand on ne s'aime plus. On se dit tout, vous donne la parole ce soir au 0810 055 056 jusqu'à 22h. Notre grand témoin ce soir, c'est le docteur Noureddine Benzora, co-auteur avec Colette Barouchabanol du livre L'art d'être des parents séparés aux éditions Albin Michel. On a bien vu depuis le début de cette émission que tous les cas étaient très différents, que les histoires étaient différentes. Il n'y a pas de schéma type, docteur Benzora. Il n'y a pas de schéma qu'on pourrait dire, tiens, bah, on est séparés, c'est comme ça que ça se passe pour les enfants. Non,
c'est pour ça que le titre, l'art d'être des parents séparés, c'est que chacun va y mettre de son cœur et de son esprit, hein, pour trouver les meilleurs, la meilleure solution pour gérer sa parentalité.
Le dialogue, toujours au cœur de tout, j'ai entendu, toujours. C'est vraiment important.
Et moyen de conflit, et mieux c'est pour tout le monde.
Alors j'espère qu'on va essayer de récupérer Virginie avant de l'accueillir. On va parler avec elle d'homoparentalité. On l'aborde dans votre livre, L'art d'être des parents séparés. On parle des nouveaux schémas familiaux aujourd'hui. Il faut faire avec ces nouveaux schémas aussi, discuter de tout ça, l'homoparentalité,
bien
l'adoption.
Sûr. Bien sûr, parce qu'ils ont des problématiques identiques aux autres, mais bon, avec des spécificités. Et que maintenant, avec le mariage pour tous, ça donne aussi une autre envergure aussi au divorce.
Les couples mixtes, quand on n'a pas la même culture, c'est pas toujours évident non plus de bien communiquer, de trouver les bonnes décisions. On n'a pas forcément la même façon de faire.
Alors,
c'est déjà compliqué dans le couple, mais quand on se sépare,
c'est pas toujours compliqué dans le couple. Justement, il y a en général dans les couples dits mixtes, justement, on est ensemble par amour plus que par acquaintance culturelle, et que c'est le problème est plus fort, c'est quand il y a un divorce et que les enfants sont partagés entre deux cultures. C'est quelque chose de très spécifique.
Virginie est avec nous près de Marseille. Bonsoir, Virginie.
Bonsoir.
C'est bien de pouvoir parler de l'homoparentalité dans cette émission quand on parle de séparation et d'enfants. Vous vous êtes séparée avec votre compagne. Vous aviez un enfant de 4 ans.
Oui, qui va faire 4 ans le 28 février, oui, tout à fait.
Et c'est compliqué aujourd'hui entre vous trois, j'ai envie de dire, entre elle, votre enfant et vous?
Oui, tout à fait. Bon, c'est elle qui l'a porté. C'est un enfant qu'on a voulu toutes les deux, qu'on a désiré. Mmh. C'est moi qui ai inséminé ma compagne. Voilà. Mmh. Et je veux dire, cet enfant, voilà, c'est pas mon sang, mais c'est mon fils et je l'aime à part entière. C'est...
Oui.
Est-ce que vous êtes mariée, Virginie? Est-ce que vous étiez mariée?
Non. Ça faisait 10 ans que j'étais avec ma compagne.
Comment ça se passe? Alors là, on tâtonne un petit peu parce qu'on ne sait pas forcément très très bien comment ça se passe. Mais quand on n'est pas marié légalement par rapport à cet enfant, vous êtes reconnu comme son parent légal?
Non, justement.
Parce que vous n'êtes pas marié?
Non, tout à fait. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai voulu que le petit bout, il ait un papa. Parce que bon, s'il n'y avait pas eu de donneur, il n'y aurait pas eu d'enfant.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc.
Donc il avait un papa et deux mamans.
Voilà, tout à fait. Ouais. Mais la séparation, c'est pas ça. Ouah.
Alors, on va essayer de trouver un peu, bien comprendre. C'est vous qui êtes partie? C'est vous qui avez pris la décision?
Non, même pas.
Non.
Donc, c'est la relation qui s'est terminée par le choix de mon ex-compagne.
D'accord.
Et ça s'est passé assez rapidement. Et j'ai dû passer du stade de voir mon fils tous les jours à le voir, ne plus le voir, quoi, en fait.
La discussion est impossible. Elle vous dit quoi? Elle vous dit c'est mon enfant, t'as aucun droit sur lui, ça se passe comme ça?
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est à peu près 400 km de distance déjà, donc c'est pas évident.
400 km
dans le... Ouais, 400 km.
Ah, 400. Ah oui, d'accord.
Qui s'est éloigné?
Pardon?
Qui s'est éloigné de l'autre?
C'est elle qui s'est éloignée. Mais il y avait des décisions qui se sont prises. Elle m'avait dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu pourras le voir. Et moi, c'est-à-dire que j'ai mal vécu la rupture. Et inconsciemment, j'ai été beaucoup fusionnelle avec mon fils. Je l'étais déjà, mais j'étais beaucoup fusionnelle avec lui. Donc ça, elle a peut-être un peu mal vécu. J'ai fait des erreurs. Mais voilà, aujourd'hui, où on en est.
Là, concrètement, vous le voyez tous les combien, votre fils?
Ça va faire plus d'un mois que je ne l'ai pas vu.
Ouais.
Je l'ai occasionnellement au téléphone.
Vous communiquez avec votre ex-compagne ?
C'est difficile.
Là, on voit bien que si on communique pas, ça, oui, c'est compliqué c'est de créer le lien avec les parents.
Bien sûr, l'enfant subit un peu les conséquences quand il n'y a pas de dialogue et de sérénité.
Vous pensez que ça va s'arranger, Virginie, qu'il y a un terrain d'entente possible ?
Dans l'immédiat, je ne sais pas, parce que je sens beaucoup de colère chez mon ex-compagne, beaucoup de rancœur, et le fait aussi que quand elle m'a quittée, quand le petit, j'ai dû partir, et qu'il pleurait parce qu'il ne voulait pas que je parte, j'ai pas eu la bonne idée, en fait, je lui ai dit, c'est sorti comme ça, j'ai dit, de toute façon, si je m'en vais, voilà, c'est parce que maman, elle veut que je parte. Pour pas me culpabiliser de l'abandonner, en fait. Et je n'aurais peut-être pas dû. Ouais. Et lui, il en a voulu à sa mère.
Est-ce que quand il y a de la colère, de la rancœur, parfois on a ce sentiment que l'enfant est pris en otage par l'autre conjoint ? Ça revient beaucoup, cette notion-là ?
Ça revient beaucoup, bien sûr. Les enfants n'ont pas à être pris à partie dans le conflit. Il faut éviter tout cela.
Et le papa dans tout ça, Virginie, puisque vous avez dit, on a fait en sorte qu'il y ait un papa. Est-ce qu'il se met un peu au milieu de vous ? Est-ce qu'il essaye de jouer les médiateurs par rapport à ça ?
Il n'a été que géniteur, en somme. Il n'a joué qu'un rôle.
Non. Oui, de géniteur, mais je veux dire, on a voulu dans la vie de l'enfant, quoi.
D'accord.
Comment il réagit par rapport à ça ?
C'est-à-dire, mon fils ?
Non, le papa de votre fils.
Ah non, il ne veut pas se mêler.
Il ne veut pas s'en occuper, oui.
Voilà.
Et lui voit voit votre enfant, le papa voit
oui,
son...
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Voilà, oui. C'est... Oui. Et j'avais de très bons rapports avec, mais bon, avec ce qui s'est passé, voilà, ça a un peu détérioré.
Personne ne peut faire le lien avec votre ex-compagne, essayer un peu de remettre les choses, parce que bon, je veux dire, on peut comprendre qu'il y a des erreurs, personne n'est parfait, surtout dans les ruptures comme ça, il y a quand même le côté émotionnel qui prend le dessus.
Tout à fait, voilà, vous le comprenez, c'est bien. C'est ce que j'essaye de faire comprendre justement à mon ex-compagne, que j'ai fait des mauvaises choses, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
Ça peut arriver.
Voilà, sur le fait de la colère, de la tristesse.
Voilà.
Mais sauf qu'il y a un enfant et que c'est plus entre deux personnes, c'est entre trois personnes en l'occurrence maintenant que l'histoire se joue.
Oui
mais je pense que les adultes peuvent s'expliquer parce que je pense que maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est une histoire entre encore les deux adultes. Et moi, je pense qu'il y a quand même, si vous trouvez quand même quelqu'un qui peut jouer un peu les intermédiaires, qui vous puisse un peu exposer un peu le message. Hein. C'est vrai que bon, pris par l'émotion, on peut dire des choses et après on les regrette et que bon, c'est pas pour autant qu'on doit rejeter complètement l'autre.
Quand on n'arrive pas à discuter, là on voit bien avec Virginie et son ex-compagne que c'est compliqué, on doit faire appel à une personne extérieure, un médiateur familial, conjugal. C'est important de pouvoir au moins avoir un rendez-vous.
Bien sûr, ou même une conseillère conjugale, ou en tous les cas quelqu'un qui puisse jouer le rôle de tierce. Parce qu'il faut quand même tirer personne pour se dégager dans ce genre de conflit.
Virginie, on vous souhaite bon courage et on prendra de vos nouvelles aussi d'ici quelques mois, savoir si les choses se sont un petit peu apaisées avec votre ex-compagne et si vous avez possibilité de voir votre fils un petit peu plus souvent. Vous êtes OK, on vous rappelle ?
Il n'y a pas de souci.
Merci Virginie.
Bonsoir Virginie.
On vous embrasse, à bientôt. Au revoir. 0810 055 056 pour nous rejoindre pendant quelques minutes encore. On parle de parentalité, comment rester parent même quand on est séparé avec notre grand témoin. Venez apporter aussi votre pierre à l'édifice. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que c'est compliqué encore aujourd'hui ? Venez nous rejoindre sur France Bleu, on est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et on va terminer cette émission avec Nadia qui nous appelle de Nice. Bonsoir Nadia.
Bonsoir.
Vous faites écho, un peu beaucoup même, je pense, au témoignage de Laurence qui a débuté cette émission avec nous tout à l'heure, qui parlait de son ex-mari qui a la garde, elle vit loin et parfois elle passe 16 semaines sans pouvoir discuter avec ses enfants. Oui. Votre témoignage fait écho à celui de Laurence parce que vous aussi, vous vivez un petit peu la même chose.
Voilà, je vis un petit peu la même chose. Je vis loin de mes enfants aussi. J'ai eu la chance jusqu'ici, jusqu'au mois d'août, de les avoir, de les voir quand même beaucoup plus souvent que Laurence, parce que j'avais quasi la garde partagée. Mais là, maintenant, ils sont rentrés au CP, donc je les vois beaucoup moins souvent. Mais je voulais dire, enfin, surtout apporter un témoignage que ben, quand tout se passe bien, c'est merveilleux. Mais quand un des parents ne veut pas, il y a moyen de rien faire et on est complètement démunis. La justice ne nous suit pas, n'est pas là pour nous soutenir et ça devient vraiment l'enfer. Quoi.
Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre conjoint vous empêche, entre guillemets, de voir vos enfants, d'entrer en contact avec eux ?
Alors, pas de les voir, puisque bon, j'ai quand même eu une garde qui m'a été imposée, mais donc ça, il m'empêche pas de les voir, mais par exemple, je peux pas les appeler quand je veux. Et donc, la justice lui donne raison. Mais bêtement, je peux pas les appeler par Skype. Donc, mes enfants sont très petits. Leur téléphoner par téléphone, ça n'a rien de concret, c'est complètement stérile. Ils vous répondent oui, ça va, oui. Alors que par Skype, ils voient leur maman. Moi, je les vois. Ils me montrent des choses. Ce qu'ils font, c'est complètement différent et leur père par exemple donc je ne peux les avoir que par Skype que quand il est là donc c'est-à-dire quand tout va bien une fois par semaine et il refuse de mettre par exemple Skype sur la tablette des enfants
qu'est-ce qui vous apporte comme argument, qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui demandez?
D'abord moi il me répond pas. Et quand les enfants leur demandent, il répond quand vous serez plus grand.
Ah, voilà. D'accord. Sympa. Quand vous dites « moi, il ne me répond pas », c'est-à-dire que vous ne communiquez pas entre vous deux, il n'y a pas d'échange ?
Tous les échanges se font par email parce que le téléphone, il ne décroche pas. Et les échanges, quand il veut bien me répondre. Donc, c'est pas évident, quoi. Par exemple, pour tout ce qui est problème de coparentalité, je n'existe plus pour mes enfants. Sur les documents de l'école, c'est... Dans la case parents, on va mettre le nom de la belle-mère et pas mon nom à moi, alors que mes enfants qui sont en CP commencent à lire.
Ah mais attendez, là c'est pas légal, c'est Nadia, pas légal. Du tout même. La belle-mère n'a rien à voir sur les papiers officiels.
Mais ce qui est ahurissant, c'est quand on dit ça devant la juge, parce que je viens de passer ici au mois d'octobre, elle dit « Ah ben oui, c'est normal, on met le nom de la personne qui est le plus proche de l'enfant ». Voilà ce qu'elle vous répond.
Non, mais on peut mettre le nom des deux parents et dire en cas de problème qui on peut contacter. Et effectivement.
Il y a deux cases.
Mais les parents, le parent, c'est vous quand même. Hein.
Je sais, mais sauf que la justice ne vous donne pas raison. Donc, des exemples comme ça, j'en ai plein. Et donc, en fait, elle me laisse ma coparentalité, mais sans pouvoir l'appliquer. Quand je dis, on va vous dire, ah oui, mais c'est louable que une mère veuille s'impliquer dans la vie de ses enfants, qu'elle veuille choisir les activités parascolaires de ses enfants, mais en pratique, comme elle vit pas au quotidien avec eux, ce n'est pas possible. Voilà ce qu'on vous répond.
Alors, juste une petite question. Non, oui. Je voulais, Nadia, qu'est-ce que votre ex vous cherche à vous faire payer, impression voilà, comme.
C'est ce que tous les psys me demandent.
J'en suis un.
Je ne sais pas parce que c'est lui qui est parti, c'est lui qui a quitté le domicile conjugal quand les enfants avaient un an et demi pour quelqu'un d'autre et avec qui il vit une vie super heureuse, il est super content. Et donc, je ne peux pas vous répondre à cette question-là parce que c'est la question que tous les psys posent et je n'ai aucune réponse à ça.
Pourquoi ce monsieur cherche quel reproche il vous fait pour vous maintenir à distance des enfants ?
Je sais pas.
Après, il y a peut-être, alors là, je veux pas m'avancer, Nadia, mais il n'y a pas parfois cette notion un peu de facilité, de dire, j'ai refait ma vie, ça se passe bien avec les enfants, avec mon nouveau conjoint ou ma nouvelle conjointe, pourquoi je vais m'embêter avec le parent qui est loin? Il n'y a pas un peu de ça parfois?
Sauf que le parent qui est loin, c'est quand même le parent des enfants.
Non, mais j'essaie de chercher, de réfléchir ce qui peut se passer dans la tête d'un parent qui... interdit tout contact avec les enfants. Enfin, c'est quand même dingue. Nadia, moi, j'aimerais bien aussi qu'on prenne de vos nouvelles dans quelques temps. On refera une spéciale Que sont-ils devenus avec vous, avec Laurence, avec Virginie. Il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à attendre de la justice.
Voilà.
Alors, on sait qu'il y a beaucoup de dossiers sur les tables des juges, mais là, vraiment, parfois...
Et que Nadia continue quand même à garder un lien avec ses enfants, c'est important.
Si c'est qu'une fois par semaine, par Skype,
c'est une fois
gardez-le,
par semaine,
effectivement.
Le garder.
On vous embrasse, Nadia. Ne lâchez pas et on prend de vos nouvelles. C'est promis, on ne vous lâchera pas non plus sur France Bleu. On voit que c'est compliqué quand même. Hein. On a eu des cas pour qui ça s'est bien passé, mais parfois, être des parents et être séparés, docteur Noureddine Benzora, c'est très compliqué. Hein.
Mais bien sûr. Oui, tout à fait, c'est jamais toujours facile. Et ce que je disais au début, quand le conflit est maintenu, c'est difficile d'avoir un dialogue et c'est compliqué pour la suite de continuer à être des parents avec ses propres enfants.
Il faut avoir fait le deuil de son histoire pour être de bons parents séparés.
Je pense, c'est ce que je dis, hein. Il faut faire quand même le deuil, tourner la page pour que les choses soient faciles, que chacun peut faire sa vie, mais on reste toujours les parents de ses enfants.
Comment on fait quand on n'y arrive pas, quand ça coince, quand il n'y a pas de dialogue possible, qui peut nous aider dans ces cas-là?
Alors, en général, c'est sûr que bon, il faut se faire aider. Pourquoi pas par une conseillère conjugale, par un psy, par une psychologue, par un médiateur dans certains cas. Je crois qu'il faut toujours introduire quelqu'un qui puisse un peu créer le...
La troisième personne, neutre.
Neutre, ouais. Qui est censé être neutre, bien sûr. C'est la profession de psy, c'est de garder sa neutralité.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous et merci à tous.
Je rappelle le livre « L'art d'être des parents séparés » que vous avez coécrit avec Colette Barouche-Chabanol. C'est déjà un énorme succès, ça va continuer encore plus après cette émission. C'est aux éditions Albin Michel. Bonne fin de soirée à vous.
Merci Vanessa et bonsoir.
On se retrouve demain à partir de 20h. Demain, ce sera un peu plus léger, quoique parfois ça peut virer à l'obsession. On parlera de shopping. Si vous êtes accro au shopping, on est encore pendant les soldes. Est-ce que vous êtes du genre à tout fouiner, à tout regarder avant, à acheter de façon parfois même compulsive? Vous viendrez nous en parler demain soir à partir de 20h. Parlez-nous de vos collections de chaussures. Parlez-nous parfois de ces remords que vous avez peut-être après une séance de shopping. Je chope et alors, ce sera demain dès 20h.